Chapitre 26. Sur la demande de Belloc aîné, le tribunal avait ordonné une enquête. Si les positions délicates et pénibles avaient plaidé l'avocat du maire de Saint-Maclou, c'est incontestablement la nôtre. Nous ne pouvons nous défendre sans accuser, et celle que nos accusations vont fatalement atteindre est une jeune fille à laquelle nous avons prodigué nos soins, une orpheline que nous avons pieusement recueillie, que nous avons aimée d'une tendresse paternelle. Mais si nous montrons que pendant le temps qu'elle a passé près de nous, cette jeune fille a mené une conduite d'une légèreté qui a provoqué les soupçons et les propos déplorables pour sa moralité, que restera-t-il des allégations sur lesquelles on appuie sa demande ? Si nous prouvons son libertinage, n'aurons-nous pas, par cela seul, prouvé qu'on ne peut pas mettre à notre charge le préjudice dont une pensée de basse vengeance et de haine dénaturée veut nous faire responsable ? Pendant cette enquête, que Soupardin avait suivie adroitement, sans se montrer et sans intervenir jamais d'une façon directe, il s'était produit des dépositions de témoins, celles des camarades de Victor Dedessus-Lamarre, qui avaient expliqué la demande d'enquête faite par Simon Belloc. Soupardin en avait été un moment dérouté, et malgré sa circonspection habituelle, il n'avait pas pu ne pas s'en expliquer à peu près franchement avec Madame Belloquet. Voilà un calamiteux incident, avait-il dit en manœuvrant son portefeuille, ce qu'on appelle un incident calamiteux. Lorsqu'il avait dit un mot qui le satisfaisait, il aimait à le répéter, seulement il cherchait à en varier la forme, et s'il avait mis tout d'abord l'adjectif avant le substantif, à la répétition, il mettait le substantif avant l'adjectif. Cela était plus élégant et donnait de la variété au discours. Mais Célanie n'avait pas partagé le désappointement de Soupardin. Pas du tout calamiteux, l'incident, loin de là. Si elle avait eu la rhétorique de Soupardin, elle n'aurait pas hésité à le qualifier de propitiatoire. Comme il allait être furieux, le corsaire, en apprenant qu'il avait eu des concurrents, car si pour Célanie les dépositions des amis de Victor étaient douteuses, il lui semblait qu'elles ne pouvaient pas l'être pour Simon. Les hommes sont si bêtes pour juger les femmes, et celui-là particulièrement était toujours si inquiet, si soupçonneux, qu'il n'avait pas su assurément voir ce qu'était Marichette. Des témoignages plus ou moins précis accusaient celle-ci, il allait les avaler, et rien au monde maintenant ne pourrait lui faire croire qu'il était le père de cet enfant. Et c'était quelque chose, cela, qui n'avait rien de calamiteux. Combien heureux au contraire, à tous les points de vue, c'étaient trois résultats inespérés obtenus d'un même coup. L'enfant ne serait jamais à craindre comme héritier. Elle pouvait profiter de cette occasion pour risquer un rapprochement avec le corsaire ou tout au moins ouvrir une porte par où il serait possible de se tendre un jour la main. Enfin, elle pouvait renvoyer Marichette sans que son mari eût le droit de la défendre. Plus besoin de la garder maintenant qu'elle était perdue à jamais dans l'esprit de Simon. Elle pouvait aller où elle voudrait, crever de misère ou travailler à son gré. Puisqu'elle parlait à chaque instant de gagner sa vie, c'était le moment. Le plus pressé était de se débarrasser de Marichette. Ensuite, elle verrait à allonger la main du côté du corsaire. Quelle inspiration elle avait eue de vouloir ce procès! Ne pouvant pas dire ses espérances à son mari, qui était arrivé, l'imbécile, à aimer Marichette comme sa fille, elle devait lui présenter ses dépositions comme un incident calamiteux. Lorsque, le soir de la visite de Soupardin, Sylvain était revenu de ses courses ordinaires, il avait tout de suite vu sur le visage de sa femme qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il avait voulu l'interroger, elle lui avait répondu qu'elle s'expliquerait après le souper, quand les enfants seraient couchés. Ce n'avait donc été que les portes closes et en tête à tête qu'elle avait dit avec désolation ce que Soupardin avait appris de l'enquête. « C'est impossible !» s'écria Sylvain. « Je ne croirai jamais cela de Marichette. »« Il ne s'agit pas de ce que tu croiras ou ne croiras pas. Il s'agit de ce qui se dit et de ce qui se dira demain, connu de tout le monde. Victor de Dessus-Lamarre a avoué à ses amis, au clerc de Caillot, au fils de Philippe, qu'il était l'amant de Marichette. »« C'est un mensonge, une infamie. »« Soupardin ne l'a pas inventé. » Il n'est pas question de Soupardin. Les amis de Victor II de Sulamare n'ont pas inventé cela non plus pour les besoins de la cause, puisque ses propos remontent à une époque où Marichette était installée chez ton frère et où personne ne pouvait supposer que le procès s'engagerait un jour. Qui nous dit que ce n'est pas Victor II de Sulamare qui s'est vanté? Qui nous dit? Qui nous dit? Mais tu ne vas pas croire que Marichette a été la maîtresse de ce garçon?
Je ne crois rien.
Mais tu sais bien que c'est l'honnêteté même.
L'honnêteté d'une fille enceinte.
Est-ce sa faute, la malheureuse?
Cela, c'est justement le point douteux. Moi aussi, j'ai cru à l'honnêteté et à l'innocence de Marichette, et voilà pourquoi j'ai pris sa défense, pourquoi j'ai été indigné contre Belloc, pourquoi je t'ai poussé à ce procès, car c'est moi qui t'y ai poussé, je le reconnais. Mais il y a des choses qui me sont revenues depuis que Soupardin m'a raconté ses dépositions. Comme toi, je ne voulais pas, je ne pouvais pas admettre.
Quelle chose?
Elle t'a prié de ne pas faire ce procès. Pourquoi?
Par honnêteté, par pudeur, par fierté.
Tu as cru cela comme je l'ai cru moi-même. Mais qui nous dit que ce n'était pas par peur de ce qui arrive? Intelligente et futée comme elle l'est, elle a prévu, sois-en sûre, que si ce procès s'engageait, il y aurait des investigations, des révélations, des découvertes fâcheuses, et tu vois qu'elle avait deviné juste.
Jamais je n'admettrai cela.
Quoi qu'il en soit, les choses sont ainsi. Nous avons chez nous, à notre table, avec nos enfants, une fille perdue de réputation.
Ne dis pas cela, Célanie.
C'est mon devoir de mère de le dire. Tu ne veux pas que je fasse passer Marichette avant mes filles, n'est-ce pas? Ces dépositions créent une situation grave.
Certainement, il est à craindre que cela n'ait une mauvaise influence pour le procès.
Ne dis pas que cette mauvaise influence est à craindre, dis qu'elle est certaine. Le procès est perdu, mais ce n'est pas le procès qui me préoccupe.
Cependant,
je te répète qu'avant de penser à elle, nous devons penser à nos enfants.
Mais que veux-tu donc? Demanda-t-il effrayé.
Marichette ne peut pas rester ici désormais.
Où veux-tu qu'elle aille?
Cela n'est qu'accessoire.
Dans son état de grossesse, malheureuse comme elle est, désespérée comme elle le sera si ce procès lui donne tort ainsi que tu le prévois, alors qu'elle a besoin de soins et d'affection, tu voudrais la renvoyer?
Tu n'as pas réfléchi.
J'ai beaucoup réfléchi, au contraire, et voilà pourquoi tu me vois si bouleversée, si angoissée. Tu ne diras pas que depuis que Marichette est chez nous, je n'ai pas été bonne pour elle. Je l'ai traitée comme si elle était notre fille.
Sylvain fit un signe d'assentiment.
Mais la bonté n'est rien quand elle est en mouvement naturel. J'ai fait plus que d'avoir de la bonté. Alors que je comprenais toute la gravité d'un procès engagé par nous contre Belloc, je n'ai pas hésité à te pousser à l'intenter, au risque de compromettre l'héritage de nos enfants. Nous devions prendre la défense de cette pauvre fille, coûte que coûte, et, Dieu merci, le devoir parle assez haut en moi pour faire taire les autres voix, même celle de l'intérêt personnel, si intéressée que je sois. Après un pareil sacrifice, tu ne peux pas douter de mon attachement pour Marichette. Mais lui sacrifier maintenant la réputation et l'honneur de mes filles, les empêcher un jour de trouver à se marier parce qu'elles auront vécu dans la compagnie d'une malheureuse déshonorée, cela jamais.
Mais nous ne pouvons pas la mettre à la porte, c'est impossible, ce serait odieux. Elle a besoin de nous, nous avons des devoirs à remplir envers elle. C'est affaire de conscience aussi bien que de cœur.
Et qui parle de la mettre à la porte? Crois-tu qu'elle soit heureuse chez nous?
Non, n'est-ce pas? Elle se cache, elle nous fuit, parce qu'elle est fière et qu'elle rougit de sa honte.
Crois-tu que quand elle saura que tout le monde connaît ses dépositions, elle ne rougira pas plus encore et ne désirera pas plus encore se cacher complètement? Dans ces conditions, ne lui serons-nous pas aussi nuisibles qu'utiles? Je te le demande.
De même que je te demande si tu ne juges pas qu'il serait meilleur pour elle de vivre dans l'ombre d'une ville que dans la pleine clarté d'un village.
Mais à la ville, elle ne nous aurait pas, elle serait seule.
et si c'est la solitude qui peut adoucir sa honte. D'ailleurs, il y a encore une autre considération. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle élève son enfant. Nous ne pouvons pas nous charger d'elle et de cet enfant à jamais. Elle a un métier aux mains, à la ville, elle trouverait à l'exercer. Pense à cela. Il faut que Marichette quitte notre maison, elle la quittera.